Alors, nous sommes demandé la semaine dernière, enfin la dernière fois, c'est-à-dire il y a 2 semaines, nous avons parlé d'amour. Nous nous sommes demandé ce qu'était l'amour. Aujourd'hui, un autre sujet dont la philosophie s'est sans doute emparée encore davantage. Et ce, dès l'Antiquité, c'est l'amitié. Ce sentiment, sans doute complémentaire à l'amour, c'est essentiel, hein, en tout cas au cœur et à l'esprit. La philia d'Aristote fait de l'amitié une vertu, car elle recherche le bien. En cela, l'amitié est exigeante et se définit dans son œuvre à la fois comme égalité et réciprocité. Il en existe des formes et des règles. Ces trois formes, celle de plaisir, celle de l'utilité et donc celle de l'égalité et de la réciprocité conjointe. Se soucier de son propre plaisir ou même seulement considérer les intérêts réciproques dans la relation, ce n'est pas pour Aristote une amitié vertueuse. En revanche, vouloir réciproquement le bien de l'autre est la donnée principale de l'amitié. Cette vertu sera ainsi le ciment de la vie sociale et politique en s'ajustant avec la vertu suprême qui est pour Aristote la vérité. On retrouve ces méditations à propos principalement dans les 8e et 9e livres de l'Éthique à Nicomaque. Quelques siècles plus tard, c'est Cicéron, lecteur d'Aristote, qui dénoncera les caricatures de l'amitié qui portent l'homme à la déception et aux blessures parfois profondes. Et il définit l'amitié comme un sentiment qui s'entretient et reste indispensable au bonheur de l'homme.
Est-ce qu'il y aurait de faux amis?
Alors oui, pour Cicéron, les faux amis, ce seraient ceux qui ne recherchent la compagnie l'un de l'autre que pour l'agrément, le plaisir, alors que l'amitié pour Aristote et Cicéron doit être vertueuse et surtout désintéressée. Elle ne peut exister véritablement qu'entre gens de bien. Cette expression, hein, que l'on doit à Cicéron, gens de bien, c'est-à-dire pour lui, ceux qui agissent avec droiture, honnêteté, générosité et qui rejettent la cupidité, l'avidité, l'intempérance. Parce que l'amitié suppose pour lui la constance et le dévouement. Ainsi, l'amitié est un lien plus fort et plus solide même que le lien naturel qui existe entre les personnes d'une même famille. Car écrit-il dans son traité de l'amitié, hein, 50 ans avant Jésus-Christ, sans dévouement, l'amitié perdrait tout son sens. Pas la parenté. On entend donc ici que la philia n'existe pas seulement comme une négation de l'éros qui lui ferait appel au corps et au désir charnel, mais bien comme un projet sincère d'entretien réciproque de la relation et celui d'une constante amélioration de soi. Sans vertu, pas d'amitié possible, écrit Cicéron. Elle se reconnaît par la perception des valeurs morales chez l'autre. Ces traits de caractère que nous évoquions, comme la droiture, le refus de l'injustice, et se développent avec la fréquentation de l'ami. Car nous souhaitons devenir l'un des proches de celui dont nous voyons et admirons les qualités. L'amitié est pour lui une entente au sens fort. Alors, est-ce à dire que l'amour n'a rien de commun avec l'amitié ou au contraire que l'amitié est bien une forme d'amour? L'amitié a bien ses charmes et sans doute ses mystères. Quand il nous arrive de louer, par exemple, les qualités d'un ou d'une amie que les autres ne voient pas, il y a parfois à s'y méprendre une telle exclusivité dans ce sentiment que les relations et les mots échangés semblent emprunter quelque chose à l'amour. Montaigne, à propos de son amitié avec la Boétie, décédée alors, avec qui il a entretenu une relation de quelques années, qui a surtout été épistolaire, Montaigne écrit à propos dans un chapitre des Essais nommé de l'amitié: si l'on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Vous l'avez certainement déjà entendu et réentendu cette citation de Montaigne. Il y a là une telle évidence du sentiment, qui existe d'ailleurs aussi dans l'amour, mais qui s'accommode souvent moins bien de la distance. On connaît cette évidence en amitié, notamment quand on retrouve ses amis après que le temps sans se voir a passé et que les retrouvailles nous font vivre de nouveau la relation comme hier, a-t-on coutume de dire. comme hier, dit-on, même si ce n'est sans doute pas tout à fait vrai, mais en tout cas, le sentiment se reconnaît à la fréquentation de l'ami. Chose bien moins aisée à vivre dans les relations amoureuses. Et sur cette question, d'ailleurs, Montaigne considère que l'amitié gagne à être tempérée, égale, douce, sans l'âpreté, sans le drame, sans les contradictions du désir amoureux. Désir amoureux qui meurt quand il est assouvi et gâte le sentiment, alors que le désir d'amitié, lui, s'affine et s'élèverait dans la pratique du sentiment. Il insiste aussi pour saluer la volonté libre des amis qui se choisissent. Un consentement commun est la base de l'amitié, dont justement la sexualité est exclue. Dans l'amitié, on préfère l'aimer, la personne aimée à la rencontre du hasard des corps, qui enferme plus qu'elle ne libère, selon Montaigne. Il développe ensuite sa rencontre avec la Boétie, il loue le travail de son ami et toutes ses qualités. Sans doute aussi peut-on lire dans ses lignes tout le poids du deuil qu'il a fait de son ami et de leur relation ainsi un peu idéalisée. Mais on y entend comment l'ami a pu justement imprimer en quelques années sa marque dans sa vie spirituelle, l'importance durable de cette relation, au-delà d'elle et au-delà de la vie de l'ami, et le caractère irremplaçable de l'ami. On pourrait penser à lire Aristote, Cicéron et même Montaigne que l'amitié est bien théorique et ne s'adresserait qu'aux sages et aux érudits. Pourtant, notamment pour Cicéron, il est important de rappeler que les hommes de bien peuvent se rencontrer dans la vie de tous les jours. Ils ne sont pas ceux qu'on ne rencontre jamais que dans les traités savants, ni pour autant de ceux que l'on rencontre aisément chaque jour. Il souligne bien la rareté de la rencontre et de la relation amicale, tout en rappelant qu'il est tout à fait possible que les hommes se rencontrent sans être dans une relation spécifiquement intellectuelle, sans intellectualiser cette relation.
Mais pourquoi et comment on devient ami ?
Ça, c'est une bonne question. Et c'est à cette question que Saint-Exupéry, répond, ou plus précisément, c'est le renard du Petit Prince qui nous en dit quelque chose. Le Petit Prince a du chagrin et dans l'œuvre, à un moment, il est perdu sur la terre, à la recherche des hommes. Et là, il rencontre le renard. Alors je lance la voix du renard. Si jamais ça ne fonctionne pas, Annie, tu n'hésites pas à me dire, et puis je ferai la lecture à la place de la voix merveilleuse de Gérard Philippe.
Allez, on tente.
Tu cherches des poules ?
Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens.
Créer des liens ?
Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde.
Je commence à comprendre.
Alors on entend là ce petit prince qui, à la découverte de la relation d'amitié avec le renard, est aussi dans un cheminement vers une forme de vérité. Et un peu plus loin dans l'œuvre, un tout petit peu plus loin, toujours dans cet échange avec le renard, on commence et on comprend un peu mieux comment et pourquoi nous avons des amis.
Tu vois là-bas les champs de blé ?
Oui.
Je ne mange pas de pain, le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Mais ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi.
Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.
On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'y a point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi.
Que faut-il faire ?
Il faut être très patient. Tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près.
Le lendemain revint le petit prince.
Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur.
Ainsi le petit prince apprivoisa le renard.
On y retrouve le lien entre le bonheur et l'amitié, la constance et la singularité du sentiment et de la relation jusque dans le souvenir. L'ami donne du sens au monde, l'amitié est aussi dépeinte là comme un cheminement, une patiente expérience qui rencontre la recherche de la vérité. On y entend que l'amitié n'a pas vraiment d'âge, déborde du genre humain, que l'on peut aimer d'amitié une fleur, un animal, ou peut-être ami avec ce qui est différent de soi, en somme, et ainsi mettre un peu d'ordre dans l'univers. Donc l'amitié, c'est exigence chez Aristote, bien partagée pour Cicéron. L'amitié semble s'inscrire dans un cheminement qui sied à la philosophie et nous montre bien comment la philosophie est située dans le mouvement même de la vie et de ses expériences. Et il semble qu'une vie heureuse ne peut se passer de l'amitié. Charles de Saint-Évremond, qui fut un disciple et un héritier de Montaigne, libertin, qui a célébré le miracle de l'amitié, l'a défini comme cela. C'est un accord entre la raison du philosophe, les affections de l'honnête homme et les mouvements de la nature. Néanmoins, nos amitiés voyagent, et si nous naviguons chacun individuellement dans nos existences, l'ami, lui, semble être un repère, un guide parfois, un refuge encore. Car si l'amitié n'est pas intéressée, elle n'est pas non plus exclusivement joie et liberté. Joie et légèreté, pardon, mais peut partager les peines et les déceptions, pour mieux sans doute nous aider à les dépasser et nous consoler.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi
C'était l'amitié de Françoise Hardy, un titre que tu as choisi, Émilie.
Oui, merci Émilie de nous l'avoir passé.
Merci à toi pour cette chronique. On la retrouve en ligne, il y a une page pour écouter le podcast du Croc Philo dans l'onglet Podcast Plus de notre site. Et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines à l'antenne.
Au revoir à tous, au revoir Annie.
À bientôt Émilie. À bientôt à vous qui nous avez écoutés.